Bonjour tout le monde, Angelo Rubino. On est en train de filmer l'épisode 5 de Un Espresso avec Angelo. Notre podcast se retrouve sur toutes les plateformes Spotify, Apple. Si vous voulez nous retrouver, c'est rubinoshoes.com/Spotify, Apple. Et bien sûr, pour le visuel, sur notre page Facebook et YouTube. Alors, aujourd'hui, on reçoit The Coffee Queen, la reine du café. Puis, puisqu'on est à Un Espresso avec Angelo, on est en plein dans le sujet. Son nom, c'est Taina Chalifou, mais tout le monde la connaît comme The Coffee Queen. Alors, bonjour Taina.
Salut.
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Je dois dire de prime abord que j'étais un peu intimidé de te faire essayer mon espresso parce que c'est la façon qu'on s'est connus sur LinkedIn. En fait, tu as fait un commentaire sur une publication et tu as dit, mais quel café?
Oui. La question, c'est toujours quel café?
Exact.
Parce que ça importe énormément.
Alors, je t'ai dit, ben viens donc ici puis on va goûter à ton café.
Oui, c'est vrai.
Fait qu'on a goûté à ton café, on va en reparler. Mais là, en ce moment, comment tu trouves notre petit café?
Ben moi, pour moi, c'est un café qui est home vraiment parce que j'ai commencé à faire ma carrière dans le café en important du café de Naples. Puis c'est un blend italien que vous avez, d'Italie du Sud également. Fait que pour moi, ça goûte ce que le café devrait goûter. Donc, j'adore. Félicitations.
Merci. Fait que je vais pas nommer le brand parce que j'essaie encore d'avoir un brand deal. Fait que tu sais, on fera pas de product placement, mais on est à Saint-Léonard. Ici, on est à Saint-Léonard qui est comme the Italian hood. Fait qu'on a du café italien. Et le gros problème, c'est pas notre café chez Rubino. C'est quoi notre problème, Taina? C'est que les gens laissent leur tasse de café, ça traîne, ils laissent ça dans le lavabo, puis souvent, je dois, moi, les mettre au lave-vaisselle. Alors, est-ce que Taina, la reine du café, est-ce que tu as une solution pour ça?
Oui, pour de vrai, si tu faisais installer dans ton countertop une espèce de truc pour rincer les verres à bière, tu pourrais rincer les tasses à espresso, ça pourrait faciliter la job de tout le monde.
Pourquoi j'ai pas pensé à ça?
I don't know.
Je sais qu'en Italie, c'est ça qu'ils font. Hein?
Oui, exact.
3 secondes. In and out, c'est intégré dans le lavabo.
Yep.
Fait que merci, je trouve que c'est une super bonne introduction à ça parce que tu as parlé un peu de l'Italie puis de Naples. J'ai compris que tu n'étais pas une fan de café puis tu as fait un voyage en Italie puis là, tu as vu le sucre là, qui descendait lentement parce qu'il y avait la crème puis là, tu es devenue une fan du café. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en Italie puis pourquoi tout d'un coup, tu es devenue une... coffee addict.
Ben oui. Ben, pendant mes études à Montréal, j'avais été juste introduit là, à l'espèce d'eau de vaisselle là, qu'on a à la cafétéria de l'université. Puis, mettons, il y a une dizaine d'années, back then, à Côte-des-Neiges, ben, il y avait certains cafés, mais c'était pas fantastique. J'arrivais pas à conceptualiser pourquoi on boirait un espresso. Je trouvais que le goût était pas plaisant, qu'il n'y avait pas nécessairement de texture qui était agréable. Bref, la première fois que je suis allée en Italie, c'était le premier espresso en fait que j'ai bu, c'était en face des Spanish Step à Rome.
À Rome.
C'est mon premier voyage en Italie, j'ai fait à Rome. Et j'ai commandé un café. Puis ce qui est le fun en Italie, c'est quand tu dis un café per piacere, on te sert pas un gros café, on te sert pas un cappuccino, on te sert un espresso parce que l'espresso c'est le café.
Exact. Et ils disent pas je veux un espresso, ils disent
non,
je veux un café.
Je veux un café.
Café.
Exactement. Et là, ce qui était fantastique, c'est que bon, la personne qui était derrière le bar. me dit, OK, est-ce que tu vas au zucchero dans ton café? Non? Fait que là, il commence à s'affairer. Premièrement, ça sent vraiment bon. Ça sent pas une odeur âme de café un peu trop foncé ou un peu trop brûlé, comme souvent on peut sentir dans les brûleries. Mais on a une odeur de café qui est embaumante, qui est agréable, qui est belle. Prends ma tasse d'espresso, il commence à faire mon espresso, il coule. Puis je remarque, au fur et à mesure que le café coule, que la texture est dense. Mm-hmm. Que la couleur est couleur caramel foncé. Magnifique, que le filament de café coule avec une belle constance.
C'est quasiment de la poésie.
Non, mais le café, c'est poétique. Vraiment, OK?
Continue,
c'est
continue. Magnifique. Ça commence à m'allumer sur le café.
Là, à partir de ce moment-là, bon, il me dit, « Ah, on va au zucchero. » Parce que souvent, en Italie, ben, les gens ici ont peut-être la perception qu'il ne faut pas mettre de sucre
exact,
dans le café.
Exact, en mettre en tabarouette.
Mais ouais, il n'y a pas de sugar shaming. Là. Mettre du sucre dans le café, ça vient juste changer un petit peu son... Ça vient changer son goût, ça vient l'agrémenter, c'est différent. Puis surtout dans le sud de l'Italie, tout le monde met du sucre tout le temps dans son café.
Ouais, puis ça, c'est une chose que les gens souvent, là, ils savent pas. Mais eux autres, là, ils mettent là, l'affaire au complet dans une petite tasse parce qu'un café, là, un expresso, c'est supposé être
ouais,
à peu près un doigt là, de. Pour, parce que les gens qui nous écoutent en audio, c'est quoi? C'est un doigt, c'est pas supposé être long. Là,
non, exactement. Un espresso corto à l'italienne, là, c'est vraiment très petit.
C'est très petit. Mais eux autres, ils mettent un sachet au complet. Là.
Oui, tout le temps.
Ça devient comme une genre de mélasse.
Oui, presque, exactement. Absolument. Ça devient hyper dense. Mais ce qui est important, puis ce qui est la première chose que moi j'ai remarqué, c'est à partir du moment où je dis oui, je veux du sucre, parce que là-bas, c'est eux qui mettent le sucre pour toi dans le café aussi. Il a déposé la cuillère de sucre, puis le sucre est resté sur le dessus de la créma. Là, je dis ça, là, bon, Nespresso a popularisé cette espèce de créma haute et dense, super fluffy qu'on voit dans toutes les publicités. Mais en réalité, moi, j'avais pas été introduite à ce que c'est la créma, puis de quoi ça avait de l'air, puis comment ça venait agrémenter un peu l'expérience du café. Le sucre qui est resté sur le dessus, mais tellement longtemps, comment je me disais, ben, faut que je prenne ma cuillère et que je pousse dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Puis tranquillement, le sucre commençait à s'agglutiner au milieu de la créma. Puis là, on le voit, il tombe. On voit qu'il va, il est sur le bord de... Il n'est pas sûr. Ouh, là, il rentre. Puis là, la créma revient prendre sa place. Là, tu touilles un petit peu. Il y a encore une magnifique créma. Là, les couleurs de caramel un petit peu marbrées viennent se mélanger. Ouais. Puis là, ça colle sur le côté des verres. Là, j'ai bu mon premier.
Là, des fois, ils mettent un petit peu de café sur le bord parce que la tasse est brûlante. Là, ils mettent la tasse au-dessus de la machine de café. Fait que c'est ça, c'est la culture du café. Puis toi, tu es québécoise d'origine marocaine.
Exact.
Puis là, tu es complètement intégrée à fond dans la culture de la consommation du café.
Exactement, à l'italienne, parce que depuis cette journée-là, ma définition, le concept, l'expérience, le goût, ce que j'ai envie de vivre quand je bois un café est complètement rattaché à ce moment-là. Ce qui fait qu'après, quand je suis revenue d'Italie, j'ai commencé à vouloir visiter les coffee shops pour aller un peu revivre, retrouver cette expérience-là.
Est-ce que tu as retrouvé ça à Montréal dans des cafés italiens?
Ben, quand j'étais à l'université, là, mettons, je parle en 2010, là, dans ces années-là, il y avait beaucoup de coffee shops, mais c'était pas aussi élaboré. Il y avait pas le même type d'amour et de préoccupation pour le café back then. Et comme moi, j'avais une expérience italienne, c'est plutôt les bars italiens où est-ce que j'allais consommer du café aussi parce que c'est le type de profil de goût qui, moi, m'interpelle. On est plus dans les notes de chocolat, un peu caramel, noisette et compagnie. C'était ça qui m'interpellait le plus. Puis, il manquait quelque chose. Il y en avait qui en avaient du très bon, là. Il y en a plusieurs où est-ce que, d'ailleurs, je continue à aller beaucoup, mais tous ceux qui n'étaient pas spécialisés dans le café, tous ceux qui ne prenaient pas à part entière une fierté de servir du café, le café était nul. Donc, tous ceux qui font d'autres types de commerces, mais qui vendent du café par la bande, par exemple, beaucoup de boulangeries, beaucoup de petits coffee shops, des chaînes de coffee shops qu'on retrouve dans toutes les grandes artères, je ne retrouvais absolument pas cette expérience-là, ni cet amour, ni au niveau du goût, ni au niveau de la texture, ni au niveau de rien, en fait. C'est là que ça a commencé à m'obséder un petit peu. Pourquoi on ne retrouve pas cette même expérience-là ici? C'est quoi les variables? Qu'est-ce qui est si différent là-bas? C'est-tu l'ambiance? C'est-tu la musique?
C'est-tu l'eau qu'ils utilisent?
C'est-tu l'eau? C'est-tu la machine? C'est-tu la personne derrière le bar? C'est quoi? Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser, en fait, à toute la culture de consommation autour du café. Puis pour moi, la culture... Comme je suis marocaine québécoise, comme tu l'as mentionné, j'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre d'autres langues puis à m'immiscer dans différentes cultures.
Parce que tu parles italien ou tu as appris au fil du temps?
Oui, bien en fait, avant de commencer mon entreprise, je me suis dit, bon, ben, si je veux importer du café du fin fond d'Italie, il va falloir que je parle italien.
Parce qu'il y a une autre affaire que les gens souvent ont de la misère à concevoir, c'est que même si l'Italie, c'est très touristique, il y a quand même très peu de personnes qui parlent d'autres langues que l'italien.
Absolument.
Fait que quand tu veux faire des affaires avec des Italiens, ben ça te donne un avantage de pouvoir te débrouiller.
Phénoménal. Surtout si tu veux faire affaire avec des entreprises italiennes qui sont habituées à vendre sur le marché domestique et qui ne sont pas déjà d'énormes compagnies qui exportent, donc qui n'ont pas nécessairement dénaturé leurs produits pour plaire un peu plus au goût nord-américain. Si tu ne veux pas te retrouver dans les mêmes joueurs qui sont déjà habitués d'exporter puis qui parlent l'anglais puis qui ont des départements pour ça, tu n'as pas le choix d'apprendre la langue puis la culture puis d'aller même un peu plus loin, pas juste parler l'italien qu'on apprend dans les livres, mais moi, j'ai appris le napolitain, j'ai appris le dialecte napolitain.
Parce que tu sais que ma famille, on n'est pas loin de Naples.
Oui, tu me l'avais dit. Agambagne.
Agambagne.
Agambagne, oyo. Pas de dragavit.
Oyo. Ça, c'est exactement le dialecte que nous, on parle comme couramment. Puis, mais là, je suis comme abasourdi là, parce que, tu sais, une Marocaine québécoise qui parle le dialecte de Naples, that's really cool. That's dope.
It's fun, yeah.
Fait que est-ce que tu retournes quand même de...
Là, je suis pas allée, ça fait peut-être 4 ans. bon, un an et demi, deux ans à cause de...
La pandémie mondiale, la pandémie. On est en 2021, ben, puis on vit encore la...
Oui, les aftermath. Mais oui, je suis allée très régulièrement pendant les premières années de ma business, deux, trois fois par année, passer beaucoup de temps là-bas. Mm-hmm. Mais surtout, on peut comprendre qu'est-ce qui fait... Toujours essayer de comprendre cette expérience-là que j'ai vécue la première fois. Puis, tu sais, on ne va pas se mentir, hein, le coffee shop, le bar en face des Spanish Step à Rome, c'est probablement un des plus occupés, des plus touristiques, des plus... Et le café est exceptionnellement bon. Et je me suis dit, pourquoi quelque chose d'aussi mainstream que le coffee shop en face des Spanish Step à Rome, hein, a un café aussi exceptionnel? Et nous, ce qui est mainstream, nous, ce qui est, on n'est pas capable de l'avoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui faisait un peu cette différence-là? Puis c'est à partir de cette base-là, qui est une base culturelle, une base expérientielle, que j'ai déterminé en fait, les choses qui allaient faire le succès ou le non-succès de l'entreprise que je voulais lancer dans le café. C'était comprendre le gap, puis aider les commerces ici à fermer le gap entre ces deux expériences.
Mais c'est ça que j'ai envie de parler parce que tu as fait un... En fait, tu as eu ton diplôme du HEC en administration des affaires, marketing, trilingue. Là, j'ai pas envie de dire des conneries. C'était français, anglais, espagnol.
Ouais.
Puis là, ensuite, en 2014... Là, tu as fondé
Dinapoli. Yeah.
Puis, c'était quoi exactement? Parce que je sais que tu étais très focusé sur le B2B, donc business to business. Donc, c'était quoi le modèle d'affaires au début? Parce que je sais que vous aviez des machines de café puis des genres de pods.
Oui.
Fait que je sais pas si tu peux nous expliquer c'était quoi ton idée puis comment est-ce que tu es tombé sur cette machine-là? Ouais. Puis...
Ben, en fait, justement, en fait, c'est en m'immisçant dans la culture du café puis en comprenant, en fait, les difficultés de la synergie entre le moulin, le café, la conservation, la machine, la personne, l'eau.
Ouais, écoute, juste pour faire une parenthèse, on a une machine de café, on a un grinder, on a des... Puis tout ça, si tu n'as pas une, comment on dit, maintenance, de l'entretien régulier, ben ça fait que... Du jour à l'autre, le café n'est pas pareil.
Exactement.
Puis ça, c'est qu'est-ce qui est compliqué.
Exactement.
Puis nous, c'est pas commercial. Là. Nous, c'est juste pour... Mais dans un coffee shop, il faut que tu aies un standard.
Bon, dans un coffee shop, où est-ce que ta job principale, c'est de vendre du café, tu es supposé être capable de tenir ton standard parce que c'est ta vocation principale. Donc, ces gens-là sont supposés d'être très bons dans cette synergie-là entre l'équipement, le café, puis la main-d'œuvre, puis le service client. OK? Mais tous ceux qui n'ont pas comme vocation première le café n'ont pas l'énergie, l'envie, l'amour, le temps ou les ressources de se focusser sur cette espèce de constance qu'on veut venir rechercher. Là, on parle justement, puis ça introduit un peu le modèle d'affaires que j'ai développé, de toutes les entreprises connexes qui veulent vendre ou offrir du café. On pense aux bureaux qui ont besoin de café pour leurs employés. Mm-hmm. Pourquoi il n'est pas aussi bon que le café au coffee shop? Bien, pour toutes les raisons qu'on vient de nommer. Donc, est-ce qu'il y avait une façon d'amener un café qui allait être une qualité coffee shop italien dans des établissements qui n'avaient ni la main-d'œuvre, ni le temps ou ni l'envie de le faire? Donc, les bureaux. Et le deuxième créneau que j'ai développé, bien, c'est surtout dans la restauration, mais qui n'était pas spécialisé dans le café. Donc, on vend boulangerie, pâtisserie, par exemple. Ça fonctionne très bien parce que, les gens qui travaillent dans le comptoir ont beaucoup de choses à connaître. Puis, le café, ce n'est pas leur sole purpose.
Puis, il y a aussi un aspect de formation.
Exactement.
De la main-d'œuvre. Puis, on sait qu'au Québec, un des problèmes, c'est le roulement du staff. Et de former cette personne-là, ça prend comme... quasiment un PhD pour opérer une machine de café. Si tu veux être vraiment barista, là, c'est une vocation.
Oui, absolument. Moi, je crois que c'est une vocation. Mais je crois aussi que en s'aidant avec de l'équipement ou avec des méthodes, on peut réussir à servir un café de façon standard qui est excellent tout le temps sans devoir mettre tout l'effort et l'énergie d'avoir justement quelqu'un qui est barista puis que ça fait 10 ans qu'il fait ça.
Fait que si je résume ton modèle, c'est un turnkey. C'est un clé en main, comme on dit en français. Tu livres la machine. Ouais. Tout est réglé, puis je reçois des pâtes qui sont biodégradables.
Ça. Exactement. Donc, le café de mon première entreprise, Dinapoli, la solution que moi, j'ai trouvée pour recréer, en fait, cette expérience-là sans avoir tout l'ensemble des choses dont on vient de parler, c'est d'importer des pods. Ce sont des pods biodégradables, OK? C'est un single serve, donc une enveloppe de café fait un café. Mais ce n'est pas des capsules. ce sont vraiment des bonnes parce que, un, bon, oui, les enveloppes sont biodégradables. Deux, parce qu'il y a 7,5 grammes de café, 7,5, 7,8 grammes de café qui est la bonne quantité. Alors, la majorité des capsules, ils ont 6 grammes de café à l'intérieur. Mm-hmm. L'équipement, c'est de l'équipement commercial qui vous permet de faire 100 cafés à l'heure si vous en avez envie. Il y a l'ensemble de toutes les caractéristiques d'une machine commerciale, sauf que on vient couper l'espèce de guesswork que les employés qui sont pas bien formés ou qui ont pas nécessairement de connaissances viennent faire avec le moulin, la grandeur, la mouture, la conservation du café, le mousseur à lait. Donc, on vient contrôler ces variables-là avec le pod puis l'équipement qu'on
suggère. Pour avoir repéré un restaurant là, à déjeuner, je sais que c'était comme vraiment complexe, surtout quand tu arrives dans le café spécialisé. Oui. Puis là, ben à chaque jour, ce sera pas le même standard de café parce que ce sera pas la même personne qui va le faire. Puis elle a pas été peut-être formée de la bonne façon. Elle a pas mis la bonne quantité de café. Fait que ça, je comprends que c'est assez niche.
Exact.
Dinapoli, c'est quelque chose de niche. Puis moi, j'ai appris à connaître ton entreprise à travers l'œil du dragon au Québec. Puis j'avais été impressionné par la façon que tu as fait ton pitch de vente. Ça a été une belle plateforme, je pense, pour toi, l'œil du dragon.
Mm-hmm.
Puis je pense qu'à l'époque, tu avais eu des offres.
Oui.
De tous les dragons,
ouais.
Ou à peu près.
Oui, oui.
Puis on sait que, d'ailleurs, il faut que je fasse un shout-out à mon cousin Vincenzo Guzzo, qui est un dragon.
Canada-anglais.
Au Canada-anglais. Puis il est en train de filmer la saison 16 de Dragon Den. C'est le mot que je cherchais, de Dragon's Den. On voit souvent à la télévision, il y a des deals qui se font, mais après ça, quand il y a tout le due diligence. Des fois, ça fonctionne pas.
Mm-hmm.
Fait que je pense que de ton côté, après, y a pas, vous avez pas fait, vous avez pas conclu d'entente.
Non, on n'a pas conclu d'entente. Mais tu sais, il y a comment je pourrais dire, il y a beaucoup de choses. Au Québec, il y a une perception des dragons qui est beaucoup plus gentille que celle de Dragon's Den, par exemple, au Canada anglais. On est beaucoup plus soft, beaucoup plus gentil. Les dragons avant et aujourd'hui sont plutôt présentés comme avec un aspect philanthropique par rapport.
Et mentor,
mentorat et philanthropie. Et aussi, ben. C'est sûr que ça a beaucoup évolué, là, les émissions des quelques dernières années. Moi, je trouve que la qualité d'entrepreneur, de pitch et de knowledge des entrepreneurs qui est là est incroyablement belle. Puis c'est devenu plus de la vraie business que de la sensation. Mais moi, quand j'étais allée en 2014, c'était encore un petit peu entre les deux. Mm-hmm. Et moi, j'avais vraiment l'impression…
2014, pas pour te couper, mais c'était aussi à l'époque où est-ce que les gens écoutaient encore beaucoup la télévision.
Oui.
Est-ce que je me trompe?
Non, pas du tout.
Parce que j'ai l'impression là, que moi, les épisodes que j'ai revus dernièrement…
Sur YouTube, genre?
Exact. Ou bien sur Facebook, plus que le voir à la télévision en live à 19h.
Absolument. Ah non, 2014, c'était encore… c'était chaud la télé encore, là. Absolument. Puis, ben moi, j'avais cette perception qui était plus philanthropique, qui était plus « Oh, wow, j'allais trouver des gens qui vont m'appuyer là-dedans ». Mais l'attitude, puis maintenant, je le comprends beaucoup mieux que back then, en 2014, où je n'avais pas d'initiation à l'investissement au VC.
Mm-hmm.
C'était beaucoup plus une attitude VC-investisseur qui, moi, ben, pour les montants d'argent que j'avais demandé, qui étaient vraiment minimes, c'était beaucoup moins complexe d'aller chercher de la dette bancaire que d'aller prendre des investisseurs pour 60 000 $.
Puis donner de l'équité
dans ton entreprise
alors que tu viens de commencer.
Exactement. Puis en plus que moi, ce que je cherchais, c'était beaucoup plus un côté mentorship ou ouverture de porte. Fait que là, ça valait plus vraiment la peine.
Parce que t'es la reine du café, mais je pense que t'es la reine du réseautage.
Merci.
Puis je dis ça parce que je t'ai rencontré dans des événements aussi, puis tu connais beaucoup de monde. Comme on dit en anglais, you're very resourceful. Je pense que tu connais des gens dans plusieurs domaines.
Ouais.
Puis maintenant, on se connaît. Moi, je suis dans l'industrie de la chaussure, tu es dans l'industrie du café, mais ultimement, on est dans le commerce.
Exact.
Bon. Alors, où est-ce que je voulais en venir avec tout ce beau sujet? C'est que tu es allé à l'œil du dragon, puis ta base, c'est du marketing, right? Fait que déjà, à la base, c'est plus le coût de publicité.
Ouais.
C'est comme te faire connaître. Mais toi, c'est pas du B2C, c'est pas du pour les consommateurs. Fait que là, c'est très niche.
Exact.
Puis, ça a été quoi le retour après l'émission? Est-ce que tu as eu beaucoup de nouveaux clients?
Oui, j'ai eu beaucoup de nouveaux clients, mais beaucoup de gens qui voulaient de l'équipement pour la maison. Chose que je voulais pas, puis que c'était pas nécessairement le créneau que moi, je voulais attaquer. Ce que les dragons ont fait pour moi, c'est que c'est venu asseoir un peu ma notoriété en tant qu'entrepreneur, mon sérieux en tant qu'entrepreneur, mon sérieux en tant que femme d'affaires. Avant d'aller au dragon, on me demandait tout le temps, oh, ben ouais, dans 2 mois, tu vas falloir. Tu sais, j'étais jeune, j'avais 21 ans là, quand j'ai commencé.
Qui est sûrement la réalité, right? Les gens, ils se lancent. Là, tu as la machine, mais si la fille disparaît…
Exact, qu'est-ce que je fais avec ma machine?
Qui va te provider les pods?
Exactement.
C'est moi qui va devoir les importer d'Italie?
Non, ben c'est ça le questionnement de tout le monde back then. Puis le fait d'aller, ben tu sais, aujourd'hui, l'entreprise a 8 ans.
Ça continue encore?
Oui, of course, okay? Bien sûr.
Puis là, j'ai vu que tu es rendu dans des grosses chaînes, j'ai envie d'en nommer une parce que première moisson.
Yay! Ouais, en plus, on commence…
J'étais fier de voir que tu es dans la première moisson parce que c'est… ça appartient à Metro, mais c'est, hein? c'est sérieux. Là. C'est pas un mom and pop shop.
Pas en tout.
Fait que tu sais, s'ils sont allés vers ton produit, c'est que tu as quelque chose de qualité.
Exactement.
On va se le dire. Là. Fait que tous les autres qui font pas affaire avec toi, ils devraient regarder. Si, tu sais, comme souvent, on essaie de voir les meilleurs, qu'est-ce qu'ils utilisent. Yeah. Ben, je pense que, premièrement, ça, c'est des gens sérieux.
Oui.
Fait que pour faire affaire avec toi, c'est que tu dois avoir un bon service.
Exact.
À la base, je pense que ça, c'est le secret. Service à la clientèle, t'es responsive, tu réponds au téléphone quand on t'appelle. Puis le service aussi, après-vente, s'il y a un problème, ça, c'est super important.
Oui, bien, dans l'industrie du café, c'est il y a deux choses. Tu sais, le première moisson embarque avec un système de pods biodégradables, système que tout le monde est hésitant pour toutes sortes de raisons avec lequel embarquer. On a fait des tests pendant 2 ans dans des succursales. Puis okay. Là, la semaine prochaine, en fait, le 14 juin, on commence l'implantation, on installe les dernières 15 succursales qui restent, qui n'ont pas encore notre équipement puis notre café.
Félicitations.
Merci, c'est gentil. C'est vraiment excitant parce que ça vient beaucoup valider, en fait, l'ensemble des qualités du pod au niveau de la constance, de la standardisation, de la maintenance de l'équipement, de diminution des efforts pour former le staff pour pouvoir servir des cafés de façon constante. Donc, ça vient vraiment asseoir le concept que moi, j'étais persuadée qu'elle allait être utile au commerce, d'accord? Puis, la deuxième chose, c'est que dans l'univers du café, beaucoup de gens se concentrent sur le café en tant que tel, sur le sac, sur le brand, sur le grain, mais il y a absolument pas beaucoup de gens, je vais y aller comme ça en disant, il y a une minorité d'entreprises qui ont un service technique sérieux avec des techniciens qui sont pas juste des gens qui changent des gasquettes puis qui viennent ajuster des grinders, mais qui ont une connaissance intrinsèque de l'équipement. Donc, pour le service, une machine à café, c'est comme un char. Tu achètes une Maserati, il faut quand même falloir que tu fasses un changement d'huile, il faut que tu l'amènes au garage pareil, no matter what.
Exact.
Donc, peu importe combien on dépense pour notre équipement de machine à café, on aura besoin d'un service, d'un support technique. Et là, quand tu es capable d'avoir un support technique, moi, cette année, d'ailleurs, je me suis associée avec une entreprise qui ne fait que du support technique, qui fait du support technique pour Starbucks, qui fait du support technique pour Couche-Tard, maintenant pour tous les premières moissons.
Qui ont des gens sur la route, ça peut être 24/7, ton problème.
Exactement.
Tu n'es pas besoin d'attendre 3 jours que tu ne peux pas servir de café parce que ça t'enlève beaucoup de crédibilité.
Ben, crédibilité, des ventes à ton client, des ventes à toi, la crédibilité de ton client par rapport à la personne qui vient pour vouloir avoir.
Quand je vois ça, ça me fait penser un petit peu au McDonald's, qu'exemple, leur machine de crème glacée, elle ne fonctionne jamais, elle est toujours pétée.
Yeah.
Ça t'enlève un petit peu de crédibilité.
Ben,
ça t'enlève aussi un petit peu de. Je sais que, bon, on est en 2021. En 2020, quand la crise a commencé, là, la pandémie mondiale de COVID-19, toi, tu étais spécialisé dans ton créneau, ta niche, c'est le B2B. Là, maintenant, les bureaux, les gens sont en télétravail. Donc, je pense que du jour au lendemain, ta business a quand même été. Ça a été un coup dur.
Bon, oui, très difficile.
Je sais que, puis ça m'avait comme impressionné, en quelques jours, tu t'es comme tourné de bord, on dit, il faut que tu te réinventes.
Ouais.
Tu sais, comme c'est bien facile à dire. Mais tu as décidé d'aller vers les consommateurs, direct aux consommateurs. Puis là, tu as développé un nouveau brand.
Ouais.
Puis j'aimerais ça que tu me parles de tout ça, parce que moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'était différent, tu sais.
Ouais.
Puis... on a un sac ici.
Yeah!
Fait que, pour la caméra, Caffeine Pusher.
Ouais.
J'aime le logo, l'œil.
Merci.
Peut-être que tu peux en parler. Puis les choix de couleurs, c'est comme. C'est pas très usuel d'utiliser du rouge avec du mauve. Hein?
Absolument. Mais bon. Comme j'ai fait du pod depuis 8 ans, puis qu'on est caché dans les bureaux ou qu'on est plutôt dans le back-end au niveau de la restauration, quand la pandémie est arrivée, ben personne n'avait de machine à pod à la maison. Là. C'est pas at large. Fait que personne n'a jamais vraiment pu acheter mon café. Ce qui fait que je me suis dit, bon, ben c'est le moment de me lancer dans le café en grains, qui peut rentrer dans toutes les machines qu'il y a des gens à la maison, mais aussi dans toutes les machines commerciales, dans les coffee shops, puis toutes les gens qui ont des machines traditionnelles à grains, les machines aussi automatisées, Seiko et compagnie, blablabla.
Ouais.
Et avec mon nouvel associé, d'ailleurs, avec Laurent Franchetot, qui en fait l'entreprise de services techniques, nous, en fait, on s'est dit, OK, on va créer un brand, mais si on va créer un autre brand de café, parce qu'on s'entend que c'est hyper saturé comme marché, il y a les torréfacteurs locaux, il y a les multinationales, il y a les grandes marques, puis il y a les grands torréfacteurs qui sont établis depuis 75 ans au Québec. Donc là, on est vraiment un peu perdu dans une marée de sacs de café en grains. Donc, comment faire quelque chose de spécial? La première chose qu'on s'est dit, c'est que nous, on le fait pour avoir du fun. Parce que là, c'est la pandémie, nos business respectifs sont hyper slow, tout le commercial est mort.
Parce que lui aussi, il y avait moins de demandes de services.
Ben,
les restaurants sont fermés, tout ça.
Tout le monde est fermé. Il n'y a plus rien qui se passe.
On va faire quelque chose.
On va faire quelque chose, mais l'amour d'ordre, c'était qu'il fallait que ce soit plaisant, il fallait que ce soit le fun, il fallait que ce soit créatif. Fait qu'ensemble, tu sais, lui, c'est Dr. Bean. Moi, c'est Coffee Queen. Puis ensemble, on est les Caffeine Pushers. OK? T'as vu l'émission Breaking Bad?
Ben oui.
Dr. Bean, là, Laurent, c'est comme le chimiste. Puis moi, je suis comme Jesse, le pusher. OK? Moi, je suis le runner. Moi, je m'occupe de trouver les clients. Moi, je m'occupe de gérer le dispatch. Je m'occupe de trouver des distributeurs. Laurent, lui, c'est le chimiste. C'est lui qui est le spécialiste de la synergie entre l'équipement, les personnes, le grain, le café qui est à l'intérieur. Fait que ce brand-là vient vraiment, en fait, merger deux secteurs d'expertise complémentaires en un seul sac. Ce qui fait, ben, deux choses. Un, on n'est pas juste un autre vendeur de sacs de café. Mm-hmm. Mais on peut être des, on veut être des partenaires qui vont aider, ben, au trafic, à la qualité, à la constance, à l'équipement, à la calibration, avoir du soutien par rapport à ça, qui est primordial pour vendre du café à 4,50 mieux que l'autre coffee shop d'à côté puis que l'autre d'à côté, parce que là, en ce moment, il y en a vraiment beaucoup. Et en plus, de le vendre à la maison. Fait que pourquoi est-ce que quelqu'un achèterait notre café plutôt qu'un autre? Et un des mots d'ordre qu'on s'est dit, c'est branding, 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 branding. Si on est
là,
capable...
J'ai vu que t'es fully branded.
Yeah.
T'as même des playlists sur Spotify. Puis là, t'as des souliers Air Force... Les One, puis sont quand je les ai vus, c'était simplement quand malade, là.
OK. Fait que là, ben nous autres, on est vraiment un peu crazy, là.
Peut-être que tu peux le montrer à la caméra ici. Fait que les gens qui nous écoutent en audio, il y a Taina qui nous montre son... il a été customized pour toi, en fait.
Exact.
Fait que c'est quoi qu'on retrouve sur la...
Bon, il y a plusieurs éléments. Nous, on a créé un univers, un lexique... qui avait un rapport, tu sais, caféine pocheuse, on comprend facilement à quel univers ça vient faire rapport. Le café est un produit 100% naturel, mm-hmm. pouvant créer de fortes addictions et stimulants, right? Donc, on est venu vraiment jouer sur toute cette espèce de fine ligne de tout ce qui est un peu drogue, hein? Mais si on regarde les définitions de drogue, il y en a plusieurs. Fait qu'on a comme créé notre propre définition contextuelle de ce que c'est le mot drogue. Et on a créé un lexique, par exemple, drip coffee, right?
Drip. Bon, là, tu peux texter drip.
Exactement. Fait qu'on a tout un lexique. Puis là, bon, on remarque sur les souliers, par exemple, le swoosh qui drip. Le drip, c'est dans le langage plus montréalais, plus usuriel de rue, ben c'est des vêtements, ouais. C'est du bling, whatever, c'est comment tu t'habilles. Il y a drip coffee. Fait qu'on a fait, on a créé un ensemble de lexiques comme ça qui se retrouvent dans l'ensemble de nos visuels. Puis, nous, ce qu'on trouvait vraiment important, c'était qu'il y ait, en fait, un volet musical au café parce qu'on trouve que le café, c'est une histoire de vibe.
Ouais.
Puis, ce qui crée la vibe, c'est aussi l'ambiance musicale. Donc, sur... Ah, ben j'ai enlevé mon chose, mais je vais vous le remontrer. Sur les souliers, comme sur les sacs de café, il y a une playlist Spotify qu'on peut scanner avec son cell. Fait que quand on scanne la playlist, que ce soit sur mes chaussures ou sur mon sac de café, puis chaque playlist est différente dépendant du blend, ça vous amène vers une micro-playlist de 6 à 8 tunes qui ont un vibe très spécifique, qui fit et qui concorde, qui ont une cohérence avec le blend, les grains que vous trouvez à l'intérieur, puis l'univers musical qu'on propose.
C'est vraiment cool. J'ai écouté la playlist de Liquid Love.
Nice.
C'est vraiment cool.
Merci.
Puis ça n'a pas été fait là, dans le café, je pense que
non.
Ça ne s'est pas vu. Right?
Non, c'est, on est comme un peu les premiers.
C'est pour ça que tu es comme de marketing aussi guru.
Ouais, ben on peut dire ça. En fait, c'est la première fois que moi, je me donne la liberté de donner un peu libre cours à ma créativité. J'étais enfermée avec Dinapoline dans quelque chose de très corporatif, de très sérieux, de très traditionnel. Je voulais vraiment faire quelque chose de flyé, d'éclaté. Puis on voulait que le sac se démarque au premier coup d'œil par rapport à la marée de sacs, bon, blanc, brun, noir et compagnie, que l'on retrouve majoritairement sur le marché.
Fait que ça a-tu bien fonctionné?
Ouais, ça fonctionne super bien. Puis, je suis revenue à mon premier amour du commercial. Maintenant, on a beaucoup mis plus le focus dans les derniers mois sur les coffee shops. Donc, notre objectif, nous, on aime ça, on aime le contact humain. Fait que vendre un sac de café en ligne, OK, ça nous fait moins vibrer comme entreprise. Mais vendre du café à un établissement qui a un contact humain avec son client, ça nous fait vibrer, par exemple. Fait qu'on est en train de développer toute une stratégie vraiment le fun pour les coffee shops qui inclut le service technique, chose qui manque généralement à beaucoup de marques de café.
Fait que c'est, encore une fois, tu es revenu avec le principe de « on va te donner un service client en main puis tu n'auras plus besoin de te soucier que ta machine est-tu calibrée, on te fait l'entretien périodique. »
Exact.
Un peu comme nos machines d'air conditionné, qu'il y a un service qui se fait de façon mensuelle, je ne sais pas.
Exact.
Tu es une femme en affaires, puis c'est une des raisons pour laquelle je voulais que tu sois sur le podcast, sur notre podcast. En 2017, il y avait une statistique, la Caisse de dépôt rapportait qu'il y a 51% des nouvelles entreprises au Québec qui sont fondées par des femmes. Fait que c'est une belle statistique, je trouve. Toi qui es une fière femme entrepreneur, qu'est-ce que ça représente, cette statistique-là, pour toi?
Bien, ça représente beaucoup d'avancement, ça représente une grande prise de confiance. Moi, je crois que le rôle des jeunes en entrepreneuriat ou aussi des femmes, c'est de tenter à travers le storytelling, à travers le partage de réseaux, le partage de connaissances, de donner confiance aux autres de se lancer. Il y a une bonne partie de ça, puis ça fait partie aussi de mes lignes directrices quand on m'invite à discuter. Pour moi, le savoir, c'est la confiance. Donc, il y a plusieurs façons d'aller acquérir du savoir, que ce soit à travers le milieu universitaire que je prône naturellement énormément comme étant un propulseur, un accélérateur exceptionnel pour les entrepreneurs, mais il y a aussi le partage de connaissances. Donc, ça fait partie, je pense que ce que ça représente d'avoir 51% de nouvelles entreprises, c'est que je crois que les femmes ont pris confiance en leur capacité d'apprentissage, en leur capacité de mettre leur réseau d'affaires ou leur réseau de connaissances à profit. Et je pense qu'il y a aussi une bonne partie de ça qui vient probablement des hommes. Parce que quand on se lance en affaires, qu'on soit une femme, on ne fait pas affaire qu'avec des femmes. Et d'avoir confiance, de lancer des entreprises comme ça, ça veut dire que les hommes qui sont autour de nous ont un appui, ont un partage de connaissances avec nous. Fait que je crois que c'est un avancement significatif par rapport au Québec, de dire que les deux genres ont donné à l'un et à l'autre une belle confiance en soi de pouvoir se lancer puis de prospérer en affaires.
Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord puis je suis un peu biaisé parce que je pense que les femmes sont bien meilleures en affaires que les hommes puis on fait juste reprendre la place qui était due. Fait que je suis bien heureux de cette statistique-là. D'ailleurs, ma fille, j'espère qu'elle va pouvoir reprendre les rênes. Puis tu sais, c'est plus on veut faire des garçons parce que c'est eux autres qui vont reprendre les affaires. Là, je pense que c'est rendu très démocratisé, les affaires.
Ben
c'est
oui.
Ça qui est cool.
Ça passe par l'éducation aussi. Ben, hein? Ça passe beaucoup. Je veux dire, aujourd'hui, les jeunes filles sont autant accès au milieu éducatif que les jeunes hommes.
Il y a écoute, en de droit, là, quand j'ai étudié en droit, ça fait quelques années quand même.
Ah, t'es un avocat.
Ouais, malheureusement ou heureusement. Mais quand j'ai étudié, là, même à l'époque, il y avait 60-65% de femmes dans ma classe. Alors ça, c'était comme quelque chose d'assez représentatif. Fait que je peux même pas imaginer aujourd'hui. Alors, on est rendu dans notre segment Express, puis on va juste prendre un petit pause. On t'arrête de filmer le podcast, tu viens de rentrer dans le... C'est mon filmeur. Alors, tu sais quoi, je cède ma place à Vincenzo Rubino. Senior, c'est lui le fondateur de Rubino.
Alors,
c'est un expresso avec Vincenzo.
Ciao, alors, Vincenzo.
C'est toi qui vas faire le podcast.
OK, nice. Au fascino in italiano.
Lo facciamo in italiano, ma lei parla proprio napoletano.
Ma io sono marocchina, non sono napoletana, sono italiana.
Ah,
però lo parli bene?
Sì.
Brava, hai imparato in Italia, sei stata in Italia.
Sì, no, ma l'ho imparato qua e poi sono andata in Italia.
Brava.
Ma sono innamorata da cultura. Perciò.
Allora, lei faci il caffè e poi te lo facciamo provare.
Ah, sì, sì, sì.
È buono. Perfetto. Allora, possiamo procedere?
Va benissimo.
La ringrazio, signor Rubino.
Un plaisir.
Un plaisir.
OK, on va continuer. C'était un bon segment quand on voulait voir si Taina parle italien. Alors, on est à un expresso avec Angelo puis on est rendu dans le segment express. C'est des questions à rafale.
Okay.
Taina, fait que vas-y avec ton cœur. Mais t'as l'air d'une personne de cœur puis de guts. Je pense que t'as un bon instinct. So, let's go. Si je te dis Québec ou Montréal, parce que Taina n'est pas parfaite, et de Québec.
Montréal.
Oh!
Mais je suis partie de Québec.
T'as étudié à Montréal,
au HEC. Oui, c'est ça. Moi, je suis partie de Québec, j'ai grandi à Québec. Puis là, pendant le cégep, j'ai fait un an d'université à Toronto. Puis là, je voulais vraiment rester à Toronto, mais là, c'est compliqué. Puis c'est cher, l'Ontario, là, comparé au Québec pour l'université, pour l'école surtout. Là.
Oui.
C'est hyper dispendieux. Fait que là, quand je suis revenue, c'est parce qu'il y a une histoire derrière ça. Tu sais, je la raconte vite.
Yes!
Moi, mon père était à la retraite aujourd'hui, il est prof d'université, en anthropologie à l'Université Laval. Et là, j'étais à Québec, mon père il est prof à l'Université Laval. Mmh. Déjà, là, que j'étais plus encline vers les affaires. Il me dit, ah, c'est ça, tu vas aller étudier à HEC avec les comptables à Bas-Brun. C'est notre petit inside joke. Mais quand j'ai dit à mon père que j'étais rentrée de Toronto puis que je voulais plus nécessairement rester à Québec, il manquait quelque chose. Je sais pas, il manquait de spice. Là. C'est pas piquant du poivre, tu sais.
Mais il devait pas avoir beaucoup de Marocains.
Non, il y avait pas beaucoup d'immigration ou d'entreprises issues d'immigration à Québec il y a 15-20 ans. Ouais. Là, ça a énormément changé.
Oui, oui, oui.
Oh wow, ça a vraiment, vraiment changé.
On n'est pas en train de dire que Québec, c'est un village.
Mais non,
c'est parce que là, on va se faire tirer des boulets rouges.
Non, non. Québec n'est plus un village.
Non.
Alors là, mon père me dit, si tu vas aller étudier à Montréal, t'es mieux de faire quelque chose de spécial. Puis c'est là que j'ai trouvé le bac trilingue. Mais moi, je parlais pas espagnol. Quand j'ai dit à mon père, je vais aller étudier en espagnol à HEC puis faire mon bac en français, anglais, espagnol, avoir des cours en espagnol, les examens en espagnol, les travaux d'équipe en espagnol, les manuels en espagnol, il m'a dit, mais tu parles pas espagnol, ma petite fille. Fait que moi, je me suis mis comme défi d'apprendre l'espagnol en un été. Puis tellement, mon père, c'est lui qui m'a amené en char à HEC faire mes examens d'entrée. Puis je les ai réussi de tabarouette. Fait que personne s'attendait à ça.
Est-ce qu'il essayait de se débarrasser de Taina?
Non, il voulait pas que j'aille à Montréal. Il voulait que je reste à Québec. Il voulait que je reste à Québec, à l'Université Laval. Puis il a dit, si tu passes le trilingue, tu pourras y aller parce que c'est le seul bac comme ça.
Fait que ton père était professeur. Oui. C'est wow.
Exact. Fait que là, c'est comme ça que je suis venue à Montréal. Puis depuis ce temps-là, bien, je reste fervente admiratrice de notre métropole.
Very cool. Fait que là, si j'étais à choisir entre Montréal ou Rome?
Ça dépend, là, j'ai quel âge. Genre comme Rome, mettons, après 50 ans. Là.
Ah, définitivement. Espresso ou cappuccino?
Espresso.
Toujours, hein?
Toujours.
Le matin, même pas. Parce que ça, c'est une autre chose que les gens souvent vont en Italie. Mm. Puis là, à l'heure du lunch, ils commandent un cappuccino.
Eh non.
Là, les gens, ils te regardent comme, ça va-tu bien? Ouais. C'est qu'eux autres, c'est le matin seulement. Là.
Uniquement.
Latte ou café latte ou cappuccino, c'est le matin seulement.
Uniquement.
Avec une brioche, ça, ouais. C'est leur déjeuner.
Ouais. Mais
puis
non.
Là, le reste de la journée, quand tu dis café, c'est
espresso.
Espresso. OK. Si je te dis Nike ou Adidas, je me doute un petit peu du...
J'ai des bas Adidas, mais là, je suis en Nike. Là, c'est 50-50.
Mais t'es vraiment plus athleisure.
Ouais.
T'as vraiment le style...
Ouais, c'est vraiment mon style athleisure.
Je dois dire que Taina, elle a beaucoup de style.
Oh, merci.
I like that.
Merci.
Est-ce que t'es plus iPhone ou Android?
Android.
Oh, ouais. OK. Je cancelle qu'est-ce que j'ai dans... Moi, je suis plus iPhone, Apple.
Fashion victim,
peut-être, mais c'est des beaux appareils.
Ben
si
oui.
T'aimes le visuel, sont vraiment beaux. Est-ce que t'es talons ou sneakers?
Sneakers.
All day, every day. Est-ce que t'aimes ça être plus dress-up, un événement ou plus casual?
Ben, j'aime ça aller dans des événements un peu dress-down de tout le monde parce que ça démontre une certaine désinvolture qui fait partie de ma personnalité de prime abord.
Mais je t'ai vu dans un événement, là, puis c'était au bordel.
Okay.
C'était le Nick and Jimmy Show. Ils faisaient un genre d'événement de réseautage. Okay. Puis il me semble que tu n'étais pas dress-down.
Je ne sais pas. Je ne m'en rappelle pas.
Fait que ça dépend des fois.
Ouais.
Comment tu feel? On aimerait ça savoir, là, les auditeurs, est-ce que tu es crypto-monnaie ou non?
Non, j'ai comme pas...
Tu n'es pas dans la crypto?
Je ne suis pas là-dedans.
All right, fair enough, c'est correct.
C'est ça, j'ai pas une opinion défavorable. Pantoute, là, j'aurais dû, je devrais, oui, ça devrait. J'ai juste pas de... J'aime pas ça faire des choses sur lesquelles je suis pas bien éduquée, bien informée. Puis je trouve qu'il y a trop de fake Instagram, crypto, lifestyle.
Ouais.
Ça me bug.
Non, effectivement, puis ceci n'est pas un... On n'essaie pas de dire aux gens d'investir ou pas, mais informez-vous.
Oui, c'est juste
puis essayez d'être diversifié quand ouais. Vous arrivez, puis pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, est-ce que tu pourrais vivre sans café ou sans réseaux sociaux?
Sans réseaux sociaux.
Vraiment?
Oui.
Ça, là, je pensais que ça allait être dur parce que tu es quand même très actif sur Instagram, puis
ouais.
J'invite les gens à te suivre.
Mais
c'est Coffee Queen.
Yeah, Coffee Queen Official. Je suis active sur les réseaux sociaux pour vendre du café, right? S'il n'y avait pas de café, je serais probablement beaucoup moins présente sur les médias sociaux.
C'est un très bon point.
C'est parce que c'est fatigant. Je sais pas pour toi si tu as une activité personnelle aussi présente sur les médias sociaux, mais t'sais, souvent, ça me tenterait que ça se fasse tout seul. Là.
My God, moi, je suis extrêmement actif sur les réseaux sociaux, puis je partage autant des choses personnelles que
voilà.
À faire, puis j'essaie de documenter tout.
Ouais.
Là, je ne vais pas dire que je suis Gary V, Gary Vaynerchuk, qui littéralement a des gens qui suivent 24 heures sur 24. Mais moi, j'aime ça documenter, puis je trouve que ça va être un bon legacy.
Ben oui.
J'aurais-tu aimé ça, pouvoir retourner en arrière puis suivre qu'est-ce que mon grand-père a fait?
Ah, c'est clair.
Qu'est-ce que mon père a fait? Donc, ça, je trouve que c'est quelque chose de beau des réseaux sociaux. Ça va continuer à vivre. Fait que je pourrais drôlement vivre. Je pense pas que je regarde de vivre sans réseaux sociaux. Fait que je me dénonce. J'ai besoin de mes réseaux sociaux. Si tu avais à choisir là, entre la musique ou un film?
La musique.
Puis c'est quoi que tu préfères écouter?
Hey, écoute, c'est juste comme le café, c'est une question de vibe. OK?
Ouais.
Ça, c'est vraiment éclectique, mon affaire. J'écoute des choses vraiment différentes dépendamment du vibe, du moment de la journée, du mood. Puis je vais renforcer musique parce que avez-vous déjà écouté un film, pas de musique?
Ça serait impossible. Ça fonctionnerait pas.
Non. Donc, l'image sans le son, souvent, perd un peu de son sens. Donc, c'est pour ça que catégoriquement, je l'ai
aimé. Souvent, quand tu te rappelles pas de la musique dans un film, c'est parce qu'elle était bonne. Quand tu te souviens de la musique, c'est parce que ça n'avait pas vraiment rapport.
Ouais,
parce que... Ça, j'ai entendu ça quelque part, là. C'est pas moi qui ai sorti ça. Si tu avais à choisir entre Night Out ou Night In?
Hey, ça dépend du mood, mais là, après l'année et demie qu'on vient de passer définitivement Night Out, là, je suis plus capable des Night In. J'ai fait assez de Night In pour Netflix, les 7 prochaines années. Assez, là. Netflix, quoi? On est rendu sur Disney, Amazon Prime, on a fini Netflix, là. What's up?
Si tu avais un conseil à donner là, à un entrepreneur qui veut se partir, c'est ça serait quoi? Parce que c'est assez comme chunk up comme question, mais un conseil. Là.
Moi, je crois que le conseil, c'est de faire confiance à ses propres capacités d'apprentissage. À partir du moment où tu as compris, tu as validé, tu as intériorisé le fait que peu importe le type de défi que tu vas rencontrer dans ton aventure entrepreneuriale, tu es en mesure d'apprendre à mieux le gérer. D'apprendre à mieux gérer les gens qui vont le gérer pour toi parce qu'il y a un certain moment où ça dépasse tes compétences ou le temps que tu veux mettre pour acquérir ces compétences-là. Avoir confiance à ses capacités d'apprentissage, c'est un peu de dire, bon, je suis prêt pour peu importe ce qui arrivera.
Ouais.
Donc, c'est vraiment ça mon conseil.
Puis, si je peux me permettre, parce qu'il faut être coachable. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il faut être capable de prendre des conseils. Est-ce que toi, tu as eu des mentors dans le processus?
Énormément. J'ai eu beaucoup de mentors. J'ai même développé toute une petite théorie sur le type de mentor qu'il faut avoir. Mmh. Je pense qu'il faut 5 types de mentors en tout temps.
5 types?
Ouais, vraiment pas pareil. Là. J'ai développé une petite stratégie de ça.
Ça m'intéresse, ce filon-là. C'est quoi les 5 types de mentors que tu as besoin? Pas mentors, mais mentors, des mentors.
Moi, premièrement, j'appelle ça des alliés. OK? Parce que je trouve le mentor, c'est comme un type d'allié. Je trouve qu'on doit avoir... On doit avoir un allié, un qui est capable de nous introduire à des portes qui nous sont fermées. Donc, moi, j'ai un allié, c'est quelqu'un qui a accès, bon, par exemple, à des grandes firmes d'investissement ou à des grandes compagnies. C'est d'ailleurs cette personne-là qui m'a introduit à quelqu'un qui était chez Première Moisson puis qui a rendu ce deal-là possible. Je crois qu'on a tous besoin d'un allié qui peut nous introduire vers des marchés auxquels on n'aurait pas accès tout de suite. OK? Je crois qu'il nous faut un allié. Il y en a un que je crois qu'il faut que ce soit un ancien compétiteur à la retraite ou quelqu'un qui était dans le même domaine que nous, qui a échoué ou qui fait d'autres choses aujourd'hui. Quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience depuis beaucoup plus de temps, qui est plus dans le domaine, mais qui peut te donner du insider.
Comme ça, tu ne vas pas reproduire, dans le fond, les mêmes erreurs que cette personne-là a pu produire.
Bien, mêmes erreurs. Puis aussi, moi, j'ai entretenu pendant longtemps une relation avec un allié qui, lui, avait une très grande, grosse, énorme chaîne dans la restauration, puis qui dealait avec des fournisseurs de café depuis 35 ans. Et les insights de la façon dont lui gérait son fournisseur de café puis l'ensemble des problématiques qu'il y avait entre les deux, ce sont des choses que tu ne peux pas apprendre. Tu apprends sur le tas, tu manques ton deal, OK? Il te faut un insider comme ça dans ton industrie.
Si tu brûles le client une fois,
exact.
Que tu n'as pas été capable de livrer au peu importe, c'est fini.
Exact. Puis comprendre aussi la dynamique de la clientèle avec une grande chaîne par rapport à un fournisseur de café. Donc, je pense que ça nous prend quelqu'un comme ça. Je pense que ça prend aussi un allié qui a accès aux médias traditionnels. Puis qui peut vouch pour toi, qui peut parler de toi ou te plugger dans des médias qui sont plus traditionnels, télévision, radio, etc. Ça, c'est des relations extrêmement importantes à entertain. Bref, puis le dernier, c'est le mentor qui, lui, est quelqu'un bon, qui peut te suivre pas à pas, comme dans la définition traditionnelle du mentorship.
Bien, c'est super intéressant parce que moi, je dis toujours que tes 3 meilleurs amis, ça devrait être ton avocat, ton comptable et ton banquier. Tu sais?
Ton pusher de café.
Ouais, ton pusher de café. Mais... C'est intéressant que tu dises, tu sais, quelqu'un qui a été dans ton même domaine, un compétiteur.
Ouais.
Tu sais, il faut être ouvert.
Ben oui.
Fait que je vais adopter ça. Je pense que je vais adopter ça. Mais je vais le dire que c'est Taina qui m'a lead the way.
Je pense que c'est fou l'important d'avoir des compétiteurs. Moi, j'ai créé des partenariats exceptionnels qui m'ont permis d'atteindre des sommets indescriptibles grâce à des relations avec des compétiteurs que j'ai basés sur des choses très négatives qui sont tournées au positif. Puis je pense que c'est important d'avoir des alliés compétiteurs avec qui on peut s'échanger des choses, faire des projets connexes. Bref, Puis le guide pour naviguer à travers ça, c'est les valeurs. Mais là, ça, c'est une autre discussion.
Non, puis je pense que des fois, d'avoir des bonnes relations avec tes compétiteurs, c'est comme dire, ben, if you can beat them, join them. Puis ouais. Ça peut créer une synergie. Puis des fois, les crumbles ouais. de ces gens-là, ça leur intéresse pas, ce type de business-là. Ben, ils peuvent même te référer du monde.
Ben oui.
Il faut avoir cette culture-là ouais. d'entraide dans notre domaine.
Moi, je crois que oui. C'est sûr que, bon, je donne un exemple. Quand moi, j'ai lancé ma business, j'ai appelé 10 compétiteurs directs que j'avais à Montréal. OK? 6 sont devenus des ennemis. 3 sont devenus des gens indifférents avec qui je savais que je ne voudrais pas travailler. Mais il y en a 2 qui sont devenus des partenaires d'affaires, des amis, puis des gens avec qui aujourd'hui on fait des choses exceptionnelles. Donc, ça vaut la peine d'aller un peu renifler qu'est-ce qui se passe autour de la compétition directe, parce que s'il y a 1 personne sur 10 qui peut devenir un allié puis faire un ensemble de choses pour vous autres, ça vaut la peine de s'être fait 2-3 ennemis qui ne fitaient pas. Là.
C'était vraiment intéressant. Est-ce que tu as un life motto, une chose que tu suis vraiment à tous les jours?
I do what I want.
You do what you want.
C'est mon life motto.
Fait que s'il y avait un billboard là, à la Tim Ferriss, c'est I do what I want. Taina Shalifou.
Yep.
The Coffee Queen.
Yep. Si tu goûtes mon Instagram, c'est ça mon tag. I do what I want.
I do what
puis
I
c'est,
want.
C'est, faut que ça transcende. T'sais, moi, mon motto transcende. Moi, je voulais vendre du café, mais je vendais du pod. Pendant des années, on a cru que j'étais vraiment une petite bête niaiseuse là, qui a vraiment rien compris à l'univers du café. J'ai voulu me lancer dans le café en grains. J'ai fait un brand mauve puis rouge qui s'appelle Caffeine Pusher puis qui défie tous les standards de café en termes de brand, en termes de communication et en termes de politically correct. I do what I want, ça transcende dans l'ensemble des choses que je fais. Puis je pense que tout le monde devrait faire ça. Il y a ouais. comme il y a comme une synergie, il y a comme une énergie nouvelle qui émerge des moments où est-ce qu'on fait réellement ce qu'on a envie de faire de la façon dont on a envie de faire, puis cette espèce d'élan de créativité là, tu sais, être créatif, c'est d'avoir des idées puis de les rendre vivantes. C'est ça la créativité, c'est d'avoir des idées de fou puis les rendre vivantes, puis cette espèce de synergie là entre tes idées puis le fait de les vivre puis de les rendre tangibles, ça crée quelque chose de vraiment génial. À d'où la moi.
Super intéressant. J'ai adoré la conversation que j'ai eue avec toi. Taina, merci pour ton temps. C'est super apprécié. J'aimerais ça te céder le micro pour que tu puisses plugger tout ce que tu as envie. So go for it. Knock yourself out. It's your moment.
Guys, moi, la seule chose que j'ai envie de vous dire, là, c'est entreprenez l'ensemble de vos projets avec créativité, amour et passion. Do what you want. Puis si tu avais besoin d'une petite dose de caféine pour réussir à faire tout ça, appelez-moi.
There you go, caffeine pushers. Guys, merci. Merci Taina encore une fois.
Merci à toi.
It's a wrap. Ciao.